On va continuer à explorer les activités originales que vous pourriez essayer en cette rentrée. À Pont-de-Buis, depuis plusieurs années, une drôle d'association très intéressante s'entraîne et propose parfois des démonstrations de son art martial. On va entendre Orion Josselin, qui est instructeur de hache noble, et oui, Héloïse Magneron, tout juste 16 ans, âge à partir duquel on a le droit de pratiquer les activités de cette compagnie d'Agorlade. Il y aura aussi Yves Dubremel, qui est instructeur en bâton et en hallebarde. Oui, ils vont nous expliquer.
Ici, c'est la compagnie d'Agorlade, donc une association qui existe depuis 2007 à peu près, et qui est affiliée aux AMHE, donc les arts martiaux historiques européens, depuis 2012. Voilà. Et depuis 2012, on fait donc ce...
Qu'est-ce qu'on y fait justement? Comment ça se passe une séance?
Alors qu'est-ce qu'on y fait? Déjà, le principe des AMHE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'essayer de retrouver les gestes de combat qu'on pouvait faire au cours de l'histoire en Europe. Donc ça va de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale, grosso modo. Et donc l'idée, c'est de chercher déjà des sources historiques qui pourraient nous indiquer comment on pouvait se battre auparavant. Alors ça peut être des textes, des images, donc des enluminures, des photos, des peintures, des gravures, tout ça. Ça
peut être donc des vrais documents historiques.
Exactement, plein de documents historiques. Ça peut être aussi des pièces archéologiques, donc des épées qu'on a retrouvées en fouille, des pièces d'armure aussi éventuellement, etc. Et donc on va déjà récupérer tout ça, récupérer toutes ces sources-là. On va les analyser une par une. Ensuite, on va les croiser. Et ensuite, on va formuler une interprétation, c'est-à-dire essayer de voir, je pense que ça pourrait se faire comme ça et comme ça. Et ensuite, on va mettre un équipement moderne de protection pour essayer de tester ces techniques, voir si notre interprétation, ça corrobore ce qu'on a vu dans les sources, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on s'est trompé et du coup, on recommence.
C'est comme ce qu'on appellerait de l'archéologie expérimentale ou de la...
C'est pas tout à fait de l'archéologie expérimentale, mais ça s'en rapproche un peu. C'est ce qu'on appellerait de l'histoire vivante. Et on va dire que le principe, c'est vraiment de faire de l'histoire en faisant du sport. C'est vraiment ça.
La tête et les jambes. Alors nous avons une adepte. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que, à part des gens très âgés, tout le monde peut venir, c'est ça? Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venue?
Moi, j'ai déménagé en Bretagne il y a à peu près un an. Et de là, un voisin s'est installé en face de moi qui fait partie de la compagnie. Et deux fois par semaine, je le voyais sortir de chez lui avec une grande arme. Alors, ça m'a fait rire, et je suis allée lui demander, et alors il m'a proposé de venir la première fois le dimanche pour tester, et du coup je suis restée, ça m'a bien plu.
Et qu'est-ce qui te plaît alors? Qu'est-ce que tu as choisi comme arme éventuellement, et qu'est-ce que tu as aimé?
Moi j'ai beaucoup aimé du coup le fait, on fait de la lutte aussi, de la lutte médiévale, et du coup je suis venue aussi pour ça au début, pour apprendre un peu les gestes pour me défendre en général, ou juste comme une activité à faire avec d'autres personnes. Mais j'ai aussi très vite adopté la hache noble, qui je trouve est très intéressante. Je trouve que c'est vraiment pas mal de manier cette arme pour voir tous les grands mouvements qu'on peut faire avec.
Et l'histoire t'intéressait pas spécialement, le côté recherche historique?
Moi j'aime beaucoup l'histoire, que ce soit en cours ou à faire des recherches moi-même, donc ça m'intéressait, et cette période aussi.
Alors la hache noble, du coup, allons-y. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient?
Alors la hache noble, oui, alors ça c'est une des armes du coup qu'on propose ici à Pont-de-Buis. Alors la hache noble, en fait, c'est une arme qui apparaît au milieu du 14e siècle, mais qui se développe beaucoup au 15e siècle. Et en fait, c'est une arme qui a été conçue pour passer à travers les plaques d'armure. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du Moyen-Âge, l'armure évolue de manière considérable. Et du coup, on commence à créer pour passer à travers ces armures nouvelles, on va créer des armes spécialement conçues pour, justement. Et en fait, ce sont des armes qui, de loin, ressemblent à une grande hache, parce que nous, on l'appellerait une hache. Et c'est une arme qui soit assez grande, elle fait à peu près 1m80, voire 2m parfois pour les plus grandes. Pour autant, c'est une arme qui s'utilise au corps à corps. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde les traités d'armes, etc., en fait, on se rend compte qu'effectivement, la majorité des techniques montrent que C'est essentiellement du corps à corps qu'on va faire, donc des coups où on est quasiment au contact de l'adversaire.
Alors si c'est un manche très long, on le tient tout en haut, à côté du large en
fait. Voilà, alors on a une... En gros, il y a une main qui est près de la tête de l'arme et l'autre qui est proche de sa base, enfin de ce qu'on appelle la queue, hein, dans le jargon. Et en fait, quand on la tient, à partir du moment déjà où on donne un coup vers l'adversaire, en fait, on se retrouve déjà à une distance tellement courte que il est difficile de vraiment essayer de se reculer. Ça devient vraiment difficile. Et qu'en fait, vaut mieux rentrer au contact. C'est beaucoup plus simple et c'est ce que fait en fait la majorité des techniques, c'est d'aller quand même plutôt vers le contact.
Et alors le manche, on s'en sert aussi comme un bâton du coup
Alors ça peut servir de bâton, ça peut servir à faire des clés de bras, à parer évidemment aussi, des clés de bras ou à venir repousser son adversaire, par exemple si on vient l'attraper derrière le coude ou des choses comme ça. Là, on peut le repousser éventuellement et le faire tomber, ce qui est plutôt pratique. Et voilà, donc il y a... C'est une arme qui peut ressembler à une sorte de grande hache ou un grand marteau aussi, ça dépend parfois. Et donc il y a vraiment plein de fonctions. Parce qu'il y a des pointes, il y a le marteau en lui-même qui sert, et puis le bâton, le manche en lui-même qui sert effectivement, qui peut servir de bâton et de mini-lance. C'est une espèce de petite lance aussi, ça peut être ça. Donc il y a...
C'est pour ça qu'on l'appelle noble, c'est parce qu'elle est vraiment...
Alors non, pas du tout. En fait, le terme hache noble, il est venu beaucoup plus tard. C'est parce qu'en fait, il se trouve qu'on a la chance en France d'avoir le plus ancien traité d'armes. Le plus ancien traité d'armes connu en France, c'est un traité d'armes qui traite uniquement de cette arme-là. Et donc, son titre d'origine, c'est le noble jeu, l'art noble, en gros, de batailler. Avec à la hache, et donc on a traduit ça plus tard par la hache noble. Mais en vérité, au Moyen-Âge, on parle plutôt de hache tout court, ou hache mortelle éventuellement.
Donc la période, c'est de quand à quand, en gros
De 1350 jusqu'à 1550, 1560 de ces eaux-là, c'est-à-dire en gros, c'est 200 ans, à peu près, d'utilisation, avec un pic majeur quand même au 15e siècle, là c'est vraiment l'apogée. De cette arme.
C'est pas pourquoi ça a décliné, si c'est les armes à feu.
Enfin. Alors en fait, si d'une certaine façon, c'est la manière de faire la guerre qui a changé. Les armures qui sont un petit peu moins présentes, elles restent quand même assez importantes quand même dans les champs de bataille et tout ça. Mais c'est surtout, oui, c'est vraiment la transformation de la société du 16e siècle qui fait que on fait moins ce genre de représentation. Les tournois, les joutes, tout ça, ça commence à passer de mode au 16e siècle. Et on se tourne vers autre chose. Et donc, petit à petit, là, je commence aussi à tomber en désuétude. Ce qui fait que à la fin, arrivé à la seconde moitié du XVIe siècle, elle a pratiquement disparu, en fait, de la circulation.
Et toi, ça te plaît pour quelle raison, alors, la hache noble? Pour ce côté complet?
Alors, oui, c'est très complet, et on peut aussi ajouter des attaques de lutte. Quand on est vraiment au corps à corps avec la personne avec qui on combat.
C'est ça. Ah oui, la hache, en fait, c'est à la fois une lance, une épée, une dague, et on fait de la lutte aussi avec. Voilà, il y a plein de choses. Alors toutefois, dans l'association, on propose ça, mais c'est pas forcément les armes principales au sein de l'association. Nous, ce qu'on fait, c'est... Effectivement, nous, on est quand même plutôt centré sur la Renaissance, donc en termes de période historique. Il faut bien se fixer quelque part. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on travaille beaucoup, déjà, c'est l'épée de côté, comme on dit. Alors, l'épée de côté, c'est une arme qui, pareil, apparaît à la fin du 15e siècle, début 16e siècle, et qui sert, en fait, de transition entre l'épée une main médiévale et la rapière. Voilà, entre les deux, il y a l'épée de côté. Donc ça, c'est vraiment l'une des armes qu'on étudie le plus au sein de l'association. Et l'autre arme beaucoup qu'on étudie, c'est un mix, c'est à la fois le bâton et la hallebarde, qui sont vraiment des armes typiques du XVIe siècle. En tout cas, pour la hallebarde, c'est vraiment typique du XVIe siècle. Donc on étudie là des traités autour de ces armes-là. Et puis, en complément de la hache noble, on fait aussi de la lutte le dimanche. Mais le créneau principal de l'association, ça reste le mercredi soir, de 20h à 22h. Et là, une séance à l'autre, une séance sur deux, on alterne. Un coup, c'est l'épée de côté, et l'autre séance d'après, ça va être bâton, hallebarde. Et après, on alterne comme ça.
Et donc, nous avons l'instructeur de bâton et hallebarde, c'est ça, hein? Le bâton, c'est vrai que ça paraît étonnant comme arme. Quels sont les intérêts de cette arme?
Alors en fait, le bâton dans les AMHE, dans les traités que je fais en tout cas, qui sont traités allemands de Joachim Meyer de 1570, oui, c'est ça. Le bâton, en fait, ça constitue la base de toutes les autres armes d'ast, typiquement la hallebarde. Et donc en fait, le bâton sert d'introduction. Dans l'ordre du bouquin, en fait, il y a d'abord le bâton, ensuite la hallebarde, et ensuite un bâton beaucoup plus long qui s'appelle la longue pique, qui lui fait 6 mètres de long. Mais comme c'est impossible à ranger et à se procurer, on n'en fera pas.
Et là, donc ça, c'était en fait aussi un outil d'entraînement, c'est ça le bâton ?
D'entraînement, mais de combat aussi. C'est-à-dire qu'avec un bâton, il y a moyen de faire assez mal à son adversaire. Alors la plupart des mouvements servant vraiment contre un adversaire se finissent avec des estocs.
Et donc on plante le bâton dans l'adversaire, en gros.
C'est ça. Et puis alors, le maître d'armes qui a écrit notre traité est assez monomaniaque. C'est-à-dire que ça se finit systématiquement avec un estoc dans la tête.
Oui, normal. Sinon, on ne peut pas tuer le zombie. Et sinon, c'est une arme qui permet surtout de se défendre, je suppose, non ?
Alors, c'est vrai que le jeu est assez défensif, contrairement à l'épée. J'ai pas de réponse.
Je sais pas. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça sert à parer, quoi. Mais sinon, parce que quand on voit des combats de bâton, on voit beaucoup quand même de mouvements. C'est vrai.
Vas-y. Bah, alors pas sur notre version du bâton. Il y a certains traités de bâton avec des bâtons plus courts qui sont plus acrobatiques, où effectivement on va changer de main, aller dans tous les sens. Le bâton tel qu'on le fait, en fait, c'est un bâton qui se tient la plupart du temps droit devant soi, face à l'adversaire. Et on va passer pas mal de temps à ce qu'on appelle tricoter entre nous, c'est-à-dire qu'on va faire des tout petits mouvements dans le but de garder l'alignement entre le bâton et la tête de l'adversaire. Voilà, ça va être 80% d'un combat de bâton chez nous.
Alors, c'est du combat, hein, mais quand même, c'est sympa.
Alors en fait, dans l'assaut, on a une ambiance plutôt bon enfant, c'est-à-dire que le but, c'est pas du tout la compétition. Notre but, c'est d'arriver à rechercher ensemble quels sont les mouvements qui correspondent au texte. C'est arrivé qu'on passe 2 heures entières sur un mouvement. Et puis on s'autorise des combats libres en fin de séance en général, histoire de tester les techniques en situation un peu plus libre. Mais vraiment, on cherche à aucun moment à avoir le dessus sur l'autre en fait. On va donner du jeu au nouveau, on va chercher vraiment à intégrer tout le monde.
Dagorlad, c'est donc une association de Pont-de-Buis qui dispose aussi d'une page Facebook sur laquelle vous pourrez trouver toutes les informations utiles.